avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, entreprendre en Afrique avec les conseils du coach Didier Akwété. Bonjour Didier.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes président d'Afrique Search, société de conseil en ressources humaines, et chaque mois chez 7 milliards de voisins, eh bien vous conseillez toute une génération et une toute jeune entreprise aussi 100% africaine sur les difficultés qu'elle rencontre. Les voisines et les voisins, si vous vous lancez dans un projet, c'est le moment de nous contacter pour passer dans l'émission, pour poser vos questions au coach. En ce moment, c'est vrai que les difficultés sont nombreuses sur le continent africain. Alors appelez-nous dès maintenant si vous voulez passer dans l'émission au 33 7 64 45 51 41. Cette émission, c'est vraiment une fois par mois le rendez-vous des entrepreneurs et des entrepreneuses. Et en deuxième partie, Didier Akwété, on va accueillir des patrons de PME confirmés pour évoquer un sujet essentiel aujourd'hui, le juste prix. Le nerf du business, on peut dire ça comme ça, Didier?
Ah, c'est un sacré sujet, le prix. On a parlé des 4 P, voire des 9 P la dernière fois. Et le prix est une composante essentielle de tout business.
Comment déterminer le bon prix de vente? Ça sera à suivre donc en deuxième partie d'émission avec nos invités. Aïté Ajavon qui produit AfriCube, un bouillon 100% africain. Je vous laisse imaginer la guerre des prix à l'ombre du géant du cube. Gilles Attailly, fondateur de GEA Africa Consulting, qui fait notamment du conseil en marketing et surtout qui a travaillé pendant des années avec des multinationales sur le continent africain. Et bien sûr donc vos appels, les voisins et les voisines, au 33 7 64 45 51 41 si vous démarrez une toute jeune entreprise.
7 milliards de voisins.
Il y a des talents sur lesquels moi je parie.
Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
L'Afrique regorge de talents, certes, mais en ce moment, c'est difficile. La croissance est à plat. Et vous avez assisté, il y a quelques jours, Didier Akwété, à un webinar, comme on dit maintenant, une conférence en digital via Internet avec la Banque mondiale sur l'Afrique, l'Asie et la question des matières premières. Puisqu'aujourd'hui, avec l'affaire du prix, on va parler de transformation du cacao, on va parler du bouillon cube, donc des produits transformés à partir de produits africains. C'est une question qui a été évoqué, qui est dans l'air du temps en ce moment, notamment dans les coopérations entre les deux continents, Afrique, Asie.
C'est une question qui reste au cœur en réalité de toutes les problématiques de transformation économique. Et c'est le bureau de la Banque mondiale aux Philippines qui a organisé ce webinaire auquel j'ai participé. Et l'idée, c'était de comprendre en termes de trajectoire comment aujourd'hui l'Afrique peut accélérer sa transformation comme l'Asie l'avait fait, notamment en transformant ses produits localement, comme ce que fait Chef André. Quand on prend les VA, pourquoi est-ce qu'on ne fabrique pas des pneus, des gants latex, comme la Malaisie le fait? Comment se fait-il que la noix de cajou se soit produite en Afrique et puis soit transformée
au Vietnam,
comme le chocolat bientôt, la Chine va commencer à faire du chocolat, on va encore dépasser les pays africains. Si vous voulez, les politiques de transformation industrielle avec les politiques publiques de soutien aux acteurs de ces industries est vraiment au cœur des priorités.
Pour un redémarrage du continent, vous voulez dire?
Absolument, dans un contexte en plus économique où tout le monde parle de rapatrier les chaînes de production, revoir les chaînes de valeur. Donc l'Afrique est vraiment au cœur de ce processus où on peut recréer à l'intérieur du continent des chaînes de valeur, des chaînes industrielles avec des politiques de développement un peu plus intégrées.
Ouais. Et donc, il ne faut pas que ça reste dans les discours, hein, parce que si c'est comme chez nous pour la production de masques, bon, évidemment, c'est pas demain la veille qu'on va produire nos propres masques.
Absolument, hein. Et je crois que des pays ont compris assez rapidement, des pays comme le Maroc, en parlant de masques, qui avaient rapidement compris qu'on pouvait transformer des chaînes industrielles pour faire des masques, pour faire des gants, et donc ça, je crois que c'est vraiment un défi. Pour l'Afrique, en dehors des locomotives comme l'Afrique du Sud, le Maroc, mais il y a un ventre mou au centre de l'Afrique, à l'ouest, qui nous pose vraiment des problèmes.
C'est un message que vous faites passer aux différents patronats sur le continent africain et aux dirigeants, finalement.
Tout le monde fait passer ce message, mais comme vous dites, comment on passe du discours à l'action? Et je crois que c'est un peu ça qu'il faut accélérer par rapport à ces expériences comparées dont nous avons discuté, notamment pendant ce webinaire.
7 milliards de voisins.
On est en forme.
C'est l'attitude qui gagne.
Alors, on revient à la vraie vie pour le moment et vous nous appelez avec vos projets de création d'entreprise ou de petites entreprises qui veulent s'étendre. 33 7 64 45 51 41. Et en effet, vous l'avez annoncé en avant-première, Didier Akouété, on accueille Chef André qui produit du chocolat qui est à Ouagadougou au Burkina Faso. Bonjour Chef André, soyez le bienvenu.
Bonjour Emmanuel et Didier.
Chef André, d'abord, merci parce que vous avez eu une super idée marketing. Vous nous avez offert à tous les deux, Didier et moi, une tablette de chocolat avec notre photo sur l'emballage.
Alors, c'est superbe.
On n'avait jamais eu une tablette.
Ah ben, j'en ai. Nous avons nos tablettes de chocolat personnalisées notre photo.
Et vous proposez ça à vos clients fidèles, de leur faire des tablettes de chocolat personnalisées avec leur photo ou pas, Chef André?
Oui, ce sont des tablettes qui sont proposées pendant les anniversaires, les fêtes de fin d'année, aux événements, ou soit aux entreprises avec le logo pour leur personnel.
Alors, trêve de plaisanterie, vous avez créé la pâtisserie chocolaterie Chef André il y a 4 ans. Vous souhaitez maintenant vous lancer dans la formation et pour créer le centre de formation des métiers de bouche. À la base, vous transformez de la fève de cacao qui est importée de Côte d'Ivoire en chocolat. Vous produisez aussi des pâtisseries. Donc c'est une chocolaterie artisanale mais avec des touches africaines. Hein. C'est ça, si j'ai bien compris, la base de votre activité, Chef André.
Absolument, nous avons voulu greffer le côté surtout local à notre chocolat pour lui donner une identité. C'est la raison pour laquelle non seulement l'emballage il est africain, nous avons des visuels africains, nous avons également des produits locaux que nous utilisons dans notre chocolat, tels la noix d'acajou, le sésame, les arachides, les épices, le sumbala Voilà, c'est une façon pour nous de donner une identité à notre chocolat.
Oui, c'est vraiment un chocolat qui n'existe pas de cette façon-là en Europe. Vous êtes, je crois, le seul chocolatier du pays ?
Oui, je suis le seul chocolatier au Burkina Faso. Mais comme je le dis, ce n'est pas une fierté pour moi. Je voudrais que le pays, c'est vrai que nous n'avons pas de cacao, mais nous voulons faire de notre pays un pays de chocolat tel est... Voilà, la Belgique ou la Suisse qui n'ont pas de cacao, mais qui sont des pays producteurs de fabricants de chocolat.
Vous êtes quand même sur un marché très étroit, parce que quand même les études de marché montrent que quand il fait très chaud, enfin je ne sais pas, je parle sous votre contrôle Didier Akouété, quand il fait très chaud, on a quand même moins envie de chocolat. Sauf peut-être sous forme de crème glacée, mais c'est vrai que c'est plus un produit qui est consommé quand il fait plus froid. En tout cas, vous voulez créer le centre de formation des métiers de bouche, Chef André, ça sera le premier centre de formation en chocolaterie en Afrique de l'Ouest. Et vous posez tout un tas de questions pour faire démarrer ce centre dont la construction est bientôt achevée.
Alors, ce centre de formation, c'est surtout dans le domaine des métiers de bouche, à savoir la pâtisserie, la boulangerie, le chocolat, que nous allons enseigner. Et surtout, dans le domaine du chocolat, nous allons apprendre aux jeunes Africains comment transformer la fève en chocolat. Voilà.
C'est le métier de Théo Bromeur, c'est ça ?
Voilà, le métier de Théo Bromeur, c'est celui qui transforme, disons, la fève en chocolat. Et ensuite,
ça m'a fasciné ce mot parce que je n'avais jamais vu ça. Pardonnez-moi mon ignorance, mais ça vient du latin Theobroma, qui est le nom botanique en fait, du cacaoyer, qui signifie nourriture des dieux. C'est bien ça, Chef André ?
Absolument, parce que au début de la découverte du chocolat, on disait que le chocolat était une nourriture qui était réservée aux dieux. C'est une nourriture, quand on la mangeait, on était en contact avec les dieux.
Sur le continent sud-américain, puisque c'est là que le cacao
absolument,
a été découvert.
Absolument.
Ah bah quand j'en mange d'ailleurs tous les jours, j'ai l'impression d'être en contact avec les dieux, moi. Donc ça fonctionne.
Alors, ce centre de formation des métiers, la formation va être payante. Comment vous allez faire rentrer de l'argent ?
Oui, ce sera une formation payante. Et nous allons avoir des différents niveaux de formation. Par exemple, vous aurez une formation en continu pour ceux qui veulent sortir comme chef.
Et ensuite, on aura des formations sous forme d'atelier pour ceux qui, les fonctionnaires qui sont occupés durant toute la semaine. Et en week-end, samedi, dimanche, ils auront un programme spécial pour, par exemple, apprendre une recette.
D'accord, là, c'est plutôt du loisir, hein, que vous allez vendre. D'accord.
Absolument.
Et vous allez aussi prélever une commission quand vous allez placer des élèves dans les entreprises, dans l'hôtellerie notamment ?
Absolument, parce qu'on s'en rend compte ici au Burkina Faso, particulièrement, on a un gros souci de main-d'œuvre. La main-d'œuvre n'est pas qualifiée, elle n'est pas formée. Et donc, nous voulons justement régler ce problème pour pas mal d'entreprises. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit à un boulanger de fabriquer du pain de tradition, il n'est pas capable parce qu'il ne connaît pas. Alors qu'en réalité, un boulanger, c'est celui qui maîtrise toute la chaîne de production du pain.
Oui.
C'est le même problème dans la pâtisserie. Donc, du coup, nous avons une main-d'œuvre au niveau du Burkina Faso qui n'est pas du tout qualifiée et les entreprises sont chaque fois à la recherche d'une main-d'œuvre.
Vous visez des jeunes dans la sous-région, notamment les pays producteurs de cacao ou pas simplement ?
Absolument. La plupart de mes élèves sont ceux-là qui m'ont appelé du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo et même du Kenya.
Ah oui.
Donc c'est pour dire que ces pays producteurs de cacao auront besoin de se former, de se former comment transformer justement leur matière première.
Oui, mais pas seulement sur les métiers du chocolat, donc d'après ce que j'ai compris, hein, ce sera beaucoup plus large puisque vous avez évoqué la pâtisserie et le pain. Alors, vous avez quand même des questions pour le coach parce que ça n'est pas si simple, à la fois l'articulation de votre PME de chocolatier pâtissier et la création de ce centre. On vous écoute, chef André, pour le coach.
En fait, pratiquement chaque année, je perds les meilleurs ouvriers de mon entreprise. Alors que ce sont des ouvriers que je prépare pour pouvoir enseigner dans le centre. C'est-à-dire que je veux qu'ils restituent ce que moi j'ai mis en eux. Mais à chaque fois, je les perds. Alors,
ils vont où quand vous dites que vous les perdez, ils partent où ?
Ils sont
dépochés par des entreprises qui sont sur place ici.
Et qui les payent mieux.
Voilà, absolument. Ils sont mieux payés que moi.
Mmh, très bien.
Et là, ça pose un véritable handicap à mon entreprise.
Donc la question, c'est comment les fidéliser, c'est ça ? Comment les retenir ?
Vous voulez les fidéliser pour les motiver à rester dans la pâtisserie ou pour travailler pour le centre, pour être de futurs enseignants ?
Oui, c'est surtout pour être des enseignants. Parce que j'ai mis toute mon énergie, et j'ai mis du temps pour les former et à chaque fois, ils s'en vont.
Donc c'est une vraie question de ressources humaines, hein, Didier.
Oui, effectivement. Alors, peut-être qu'ils ne veulent pas être enseignants, hein, mais peut-être déjà pour restituer un petit peu la discussion, le marché du chocolat, je crois que les chiffres semblent dire qu'on est à plus de 100 milliards de dollars chaque année. Ce marché et qu'en Afrique, on en capte à peine 5 à 6%, alors que nous produisons 70% du cacao mondial. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a un marché, mais dans le même temps, une fois qu'on a dit ça, les statistiques semblent indiquer qu'en Afrique, la consommation en moyenne de chocolat par an est entre 200 grammes et 500 grammes. Par africain, évidemment, sur les pays, c'est beaucoup plus élevé. Et en Europe, un pays comme l'Allemagne, la Suisse, on est entre 10 et 13 kilos. Donc, il y a une question aussi de marché qui va probablement se développer, mais qui aujourd'hui est encore un marché encore un peu, en tout cas avec un potentiel certain, mais qui ne peut peut-être pas absorber tous les volumes qu'on pourrait produire par rapport à l'évolution de la classe moyenne. Mais une fois qu'on a dit ça, je crois que votre projet où il y a bien sûr la transformation du cacao donc en chocolat est un bon business puisqu'il y a un marché qui est en croissance et le centre de formation qui est un autre business qui vient compléter cela est également une bonne idée. Alors maintenant, si on rentre un peu en ressources humaines avant de parler partenariat, ce que vous formez n'ont peut-être pas vocation à devenir enseignant. C'est peut-être des gens qui veulent être plutôt dans la pratique que dans la transmission. Donc peut-être dans le modèle de développement de vos ressources humaines, il faudrait voir comment ce que vous formez, il garde toujours une composante opérationnelle, donc dans le business, en plus de la formation, d'autant plus que, on le voit très souvent, oui. des personnes qui ont une expertise peuvent tout à fait travailler dans une entreprise et puis donner 5 heures de formation par semaine, 4 heures de formation par semaine. Et ça peut être une convention que vous signez. Donc, c'est plus l'organisation, à mon avis, de votre stratégie RH avec vos employés qu'il faut peut-être regarder et la manière dont vous nouez les partenariats avec les entreprises. Donc, ça m'amène sur la question des partenariats. Si vous avez un centre de formation régional autour des métiers de bouche, à mon avis, qui est un vrai besoin, comme vous l'avez dit vous-même, aussi bien pour les hôtels, bon, actuellement, peut-être pas, parce que les hôtels sont un peu fermés, mais les hôtels, les restaurants d'entreprise, les cantines, même les particuliers. Beaucoup de particuliers voudraient bien quelqu'un, un chef maison, tu vois, quelqu'un qui sait faire à manger comme un semi-professionnel. Donc, le marché est assez vaste, à mon avis, pour la formation, avec justement une dimension pratique. Donc, comment vous employez également ces personnes que vous formez, que vous pouvez même mettre à la disposition de ces entreprises. Donc, comment vous structurez aussi le contrat avec vos employés et avec vos partenaires pour faire une mise à disposition de ces personnes que vous avez formées.
Ça veut dire que sur un même contrat d'un employé, il peut travailler à la pâtisserie, il peut travailler comme enseignant dans le centre de formation des jeunes et il peut aussi être à disposition d'une entreprise pour un événement ou de particuliers. Est-ce que vous aviez imaginé les choses comme ça, chef André ? Parce que je sais que vous aviez aussi l'idée d'aller rechercher peut-être aussi des chocolatiers retraités européens.
Oui, ça fait l'objet de ma seconde question. Question justement concernant les partenariats. C'est que vous voyez actuellement avec le Covid, les entreprises ferment en Europe et ils ouvrent en Afrique. Alors, ma question là-dessus, c'est que je voudrais savoir quel type de partenariat établir avec des chocolatiers retraités européens, justement, qui ont de l'expérience et qui seront capables de dispenser des cours dans le centre. Et bien entendu qu'il y aura des accompagnements, par exemple le billet d'avion aller-retour sera pris en charge, la nourriture, le logement. Et en retour, moi je m'attends quand même à ce qu'on, si possible, qu'il arrive à dispenser 5 heures de cours sur 5 jours de la semaine.
C'est une bonne idée, ça, Didier Acouetté, d'aller chercher des retraités
Ça se fait dans beaucoup d'industries. Donc, il n'y a rien de nouveau, a priori. Simplement, ce que je voulais peut-être dire à chef André, c'est que, bien sûr, ces personnes vont apporter une expertise et former vos employés, améliorer l'expertise de votre organisation. Mais une fois que ça c'est fait, est-ce que c'est parce que vous visez peut-être des marchés internationaux ? Parce que l'autre question aussi, si vous voulez développer votre business au-delà du Burkina, avec un petit peu toutes ces spécialités, ces particularités que vous mettez dans vos chocolats, dans vos tablettes, peut-être que ces anciens chefs ou ces anciens pâtissiers européens, peut-être qu'il faudrait aussi discuter avec eux, c'est la possibilité d'ouvrir ces marchés pour vous, en dehors du fait qu'ils viennent vous donner de la formation.
Je crois savoir, chef André, que vous avez là une aide financière substantielle d'une ONG qui est financée par le patronat suisse.
Tout à fait, la STSA, la Swiss Trading and Shipping Association, qui nous accompagne dans la construction justement de ce centre. Et la mise en place et le début des cours.
Donc ça veut dire que les Suisses, ils sont intéressés par des projets de transformation de cacao sur le continent africain. Enfin, c'est ce que j'en déduis.
Probablement.
Absolument, parce que par rapport à ce qu'on a déjà chez Chef André comme chocolat, tous ceux qui viennent, les expatriés qui viennent à la boutique, s'en rendent compte en réalité que nous avons
un potentiel. Une conclusion, Didier Acouetté.
Non, mais rapide, en fait, c'est que sur ce deuxième volet, moi, par-delà le fait que ceux qui ont l'expertise viendraient former localement, c'est plutôt voir comment on accède à des nouveaux marchés en utilisant ce réseau de professionnels européens, puisqu'on voit bien que la consommation dans ces pays continue de croître relativement vite et que c'est autant de marchés pour vous.
Pâtisserie, un projet de formation des jeunes, vous y croyez ?
C'est un projet intégré, Sauf que comme ça ne peut pas servir que son entreprise, il faut absolument qu'il l'étende à un écosystème et à des partenariats internationaux comme il est en train de faire pour garder la main et continuer à croître son industrie. Et puis peut-être juste pour finir, c'est que pourquoi vous ne créez pas un concept pour arriver à créer des franchises avec ces personnes que vous formez, qui peuvent même aller créer leur boutique, leur petit business, mais avec vous comme étant le franchiseur. Et du coup, vous commencez à créer vraiment un vrai, un véritable écosystème avec toutes ces personnes que vous formez et vous développez un vrai business avec tout ce réseau. Parce que le marché va probablement se développer un peu plus vite que prévu. Et si vous êtes un peu un pionnier, surtout vous faites de la formation, allez au bout de la chaîne.
Il y a de l'avenir,
en tout cas. Ceux que vous formez peuvent être vos meilleurs vendeurs demain.
Bonne chance à vous, chef André. J'ai la tablette dans les mains, la tablette de Didier à côté avec sa photo. Chocolat, gingembre, piment, cannelle, acajou, pois de terre, praliné, soubala, café, banane, mangue, coco, arachide, baobab, menthe. Voilà, c'est incroyable toutes les déclinaisons que vous fabriquez. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Et quant à vous, les voisins, les voisines, évidemment, vous pouvez nous contacter en message privé sur notre page Facebook ou sur notre compte Instagram. Oui, je vous le rends, le chocolat.
Si avec tous ces ingrédients, on ne rencontre pas les dieux, Emmanuel, alors on a tout perdu. Là.
Très bonne journée à vous, chef André. Et vous nous appelez,
merci,
les voisins.
Merci, Emmanuel. Merci, Didier.
Très merci, bonne journée. Chef André.
Et les voisins, bien sûr, pour passer dans l'émission, passer sur le grill du coach Didier à côté. 33 7 64 45 51 41. Didier, en deuxième partie d'émission, on l'avait dit, on va parler du juste prix avec des patrons de PME. Mais d'ici là, avec un carré de chocolat, je vous offre une touche afropop. Alléluia, Daphné. Mom, business is what I was made of. Blessing abundant, me send more. Hey, Jibé, yeah, we look to see you have there for you. Connection, Jemen Cap. If you see my collection, I know they like Daddy Jemen Connection. No Jemen Cap. If you see my condition, I swear I know they like. Dala Jara, la Pinjie de la. Tamo Baba, Tamo Jie de la. Même quand les amis, c'est mon que Jie de la. De voisins, on est bien sûr RFI avec le coach Didier Akouété, le président d'Afrique Search, et nous accueillons des patrons de PME pour discuter d'un sujet crucial, le prix, comment déterminer le prix de vente d'un produit. On en discute avec vous, Aïté Ajavon, bonjour.
Oui, bonjour Emmanuel.
Vous produisez AfriCube, un bouillon 100% africain. Je vous laisse imaginer en effet la guerre des prix sur un marché de ce type, le bouillon, combien de millions de cubes on utilise à l'échelle du continent africain. Et puis Gilles Ataï est fondateur de GA Africa Consulting, qui fait notamment du conseil en marketing. Bonjour à vous, Gilles Ataï.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez travaillé pendant des années pour des multinationales sur le continent. Et puis Didier, à côté, évidemment, les PME africaines sont souvent en concurrence avec des multinationales qui sont déjà bien implantées sur le continent. Est-ce que ça rend la stratégie prix plus compliquée pour les produits ?
Bonjour Gilles Ataï, bonjour Haïti Ajavo. Gilles, qu'on ne présente plus, hein, qui a sillonné le continent dans des grandes multinationales où il a fait de la stratégie prix. Effectivement, généralement, sur des marchés où il y a une forte intensité concurrentielle, le prix devient un élément important. Mais vendre pas cher ne veut pas forcément dire vous aurez du succès sur un marché. Et vendre trop cher ne veut pas non plus dire vous aurez du succès. Je crois que la discussion va être intéressante. Alors, à travers l'expérience de notre ami Haïti.
Deux points de vue sur la stratégie prix. Est-ce qu'il faut s'aligner sur les prix des multinationales ou pas ? Haïti Ajavon, je vous donne la parole. Je vais résumer très vite votre parcours. Vous avez passé 10 ans aux États-Unis. Vous êtes un autodidacte. Hein. Vous avez travaillé dans des grandes entreprises en France, dans l'informatique, dans la banque. Vous avez créé le bouillon cube 100% africain. Vous étiez quasiment le seul hein, sur le marché en Afrique de l'Ouest. Comment vous avez déterminé votre stratégie prix pour vendre AfriCube, donc un bouillon cube made in Togo, créé il y a plus de 3 ans ?
Oui, merci pour la parole. Effectivement, tout dépend du produit. Et moi, je suis sur un produit où il y a un prix qui est déterminé, qui est psychologique. On sait très bien qu'en Afrique de l'Ouest, le cube est à 25 francs CFA. Donc, stratégiquement parlant…
Donc, quelques centimes d'euros. Hein.
Voilà, quelques centimes d'euros. Donc, quel que soit le produit, quand j'allais arriver sur le marché, on ne pouvait pas arriver avec un nouveau produit plus cher que tous les autres concurrents. Quelle que soit la qualité, les points forts de notre produit, il n'allait pas se vendre. En plus, ça allait constituer un désavantage supplémentaire face à une concurrence qui est très, très bien établie.
Ça veut dire que votre cube, vous le vendez le même prix que le cube On ne citera pas la marque.
Tout à fait. On le vend au même prix que tous les bouillons chimiques parce qu'il y a une vingtaine de marques. C'est un marché hyper concurrentiel. C'est tous le même prix.
Alors qu'il est de bien meilleure qualité parce que vous ne mettez pas de glutamate dedans, c'est qu'avec des produits naturels. Ça veut dire que la ménagère, elle regarde le prix, le prix, le prix, le prix.
Tout à fait. AfriCube est composé seulement d'éléments nobles, des épices du terroir. Ça nous coûte cher, beaucoup plus cher qu'un cube qui est fabriqué à 60% avec du sel industriel. Mais on est tout de même obligé parce que c'est un produit, pour tout le monde, c'est 25 francs CFA. Chez nous, disons par exemple, moi je prends le cas du Togo, le prix, c'est vraiment la première chose que 95% des ménages vont regarder pour acheter.
Ça veut dire qu'une fois qu'elle a vu que vous étiez au même prix que le cube, et ben, vous pouvez commencer à lui parler de ce qu'il y a dans votre cube. C'est ça en fait.
Tout à fait. Une fois que vous avez validé, vous lui avez mis dans la tête, ok, écoutez madame, c'est 25 francs CFA, elle va goûter, c'est bon. Là, elle est ouverte à toutes les explications concernant c'est naturel, c'est local, ça crée des emplois, c'est bon. Voilà, là, on peut vous écouter tout de suite. Malheureusement, il n'y a pas le luxe de pouvoir prendre des produits naturels à deux fois le prix.
Gilles Ataï, vous faites du consulting sur les stratégies prix, notamment. Quand vous conseillez des PME africaines, est-ce que vous leur dites « démarquez-vous, vendez du haut de gamme, vendez plus cher parce que de toute façon, sinon vous n'y arriverez pas, vous serez écrasé par les grands » ou pas ?
Ah, il m'est arrivé de leur dire de vendre plus cher parce que le prix n'est qu'une des composantes du service que l'on rend à un client. Il y a par exemple une donne, pour faire très facile, la distribution. Il peut y avoir que un producteur, une PME locale, soit dans un petit coin d'un pays où la marchandise étrangère ou bien de marque étrangère, internationale, n'arrive pas. Eh bien, la disponibilité de mon client dans un petit patelin lui donne un avantage concurrentiel qu'il peut exploiter. Sinon, effectivement, je comprends que la puissance de la marque internationale écrase le producteur local et nos consommateurs sont très peu sensibles à la question de « avec mon produit, je crée des emplois locaux, j'utilise nos produits du terroir ». Ils ne comprennent pas ça toujours. Mais la disponibilité peut être un grand facteur de différenciation et qui peut permettre, oui, à un producteur local d'être, de vendre son produit plus cher qu'une marque internationale.
À quel endroit du continent africain les produits d'importation de grande industrie ne sont pas accessibles, Didier Kouété ?
À part la célèbre marque rouge de boisson qu'on trouve même dans les villages les plus reculés, je pense qu'il y a quand même certains produits qu'on a du mal à retrouver.
Je parle des produits de base, hein, quand même.
Oui, c'est ça. Par exemple, le produit que fait que produit AIT, on peut ne pas trouver les marques des majors dans tous les espaces de vente. Donc, dans les circuits de distribution habituels, on va le retrouver, mais peut-être pas partout. Cependant, pour revenir à la question de prix, c'est vrai qu'en général, quand vous rentrez sur un marché avec des concurrents aussi importants qui ont énormément de moyens, surtout en marketing et en promotion, si vous n'avez pas un élément entre guillemets qui permet au consommateur de dire « je vais regarder le produit en dehors du prix », bien sûr du packaging, après tout ce que vous avez mis comme ingrédient à valeur ajoutée, c'est assez difficile de rentrer sur le marché. Maintenant, si c'est un marché de niche, et c'est ça aussi qui est différent, si le produit que faisait par exemple AIT, c'est le super bouillon que seuls les grands chefs utilisent dans la restauration, dans les restaurants gastronomiques, là, il a un positionnement qui est différent. Donc, il commence à être dans du B2B avec des professionnels qui recherchent des caractéristiques précises sur le produit. Et donc là, il peut se permettre d'avoir un prix différent parce que c'est 100% naturel, c'est fait localement, etc.
Mais sur le cube de base, ça veut dire que AIT à Javon a raison d'emblée, quels que soient les sacrifices énormes d'ailleurs que ça lui coûte, d'emblée se mettre au même niveau que les multinationales et de vendre le cube au même prix, alors que ça lui coûte beaucoup plus cher à produire.
Alors, en tout cas, sur les produits de grande consommation, comme les cubes, les tomates, etc., le consommateur est extrêmement sensible au prix. Et il n'a pas intérêt, en tout cas, en pénétrant le marché, être au-dessus des autres. Sinon, les consommateurs risquent de passer à côté, à mon avis. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qui semble fonctionner pour l'instant. Mais parfois aussi, c'est simplement une stratégie de pénétration d'un marché, et une fois que le consommateur s'y habitue, aime, ne s'en passe plus, vous remontez légèrement le prix, et c'est là où vous voyez si l'élasticité prix fonctionne ou pas.
C'est votre stratégie, AIT à Javon, remonter peut-être les prix à terme, ou bien est-ce que vous ne craignez pas que demain, tout d'un coup, le géant du cube dise « Eh ben si c'est ça, moi je vais vendre 2 centimes moins cher, parce que là on est sur une bataille extrêmement serrée, sur quelques centimes, et ce qui compte c'est les volumes, AIT à Javon. »
Tout à fait. Non, ma stratégie déjà, pour mettre le prix à 25 francs CFA, je voulais que le produit soit accessible à toutes les bourses, que ça rentre dans la cuisine, qu'il l'essaye, qu'il le teste, qu'il le maîtrise et après qu'il l'adopte. Moi je ne veux pas derrière augmenter les prix, même lorsque j'aurai atteint mon objectif. Je ne veux pas augmenter le prix. Je veux que la population ait accès à un produit naturel et local au même prix que les produits importés. Il aura toujours ce choix et moi, je vais garder toujours ce prix-là. Si les multinationales commencent à diminuer le prix, ben, tant mieux pour nous, tant mieux pour la population. Et là, ça veut dire que déjà, j'aurais gagné ma bataille, j'aurais eu un impact. Et à ce moment-là, moi-même, je pourrais même diminuer peut-être les coûts, je ne sais pas, mais en tout cas, ça sera positif pour tout le monde.
Ouais, vous voulez vous positionner un peu avec un discours social, quoi, finalement.
Hein,
c'est-à-dire un cube de bonne qualité, pas nuisible pour la santé et accessible à tous.
C'est ça, créateur de richesses, créateur d'emplois, ça valorise nos matières premières.
Vous avez 27 employés à Lomé, c'est ça aujourd'hui ?
Tout à fait.
Et le cube est vendu au Bénin, au Mali, au Burkina et même en France, hein ?
Oui, même en France, vous pouvez le retrouver dans la région parisienne à Château-Rouge et très bientôt dans la chaîne Auchan.
Ouais, africube.fr. Ah, c'est pas facile d'entrer dans la grande distribution en supermarché en France. Hein.
On en sait quelque chose. Et on tasse les prix en plus.
Mais Gilles Attailly, vous dites souvent il faut que les patrons de PME africains se positionnent autrement, se regardent différemment et ne cherchent pas à s'aligner en permanence. C'est valable pour le prix, c'est valable pour d'autres choses. Comment vous voyez ça ?
Ah ben, alors d'abord, ce que vous dites est exactement ce que je dis, donc je suis d'accord avec vous. Je reprendrai les termes qu'a utilisé tout à l'heure Didier Akouété. Il a parlé de niche. Donc, en stratégie, il faut trouver la niche. Moi, je redis, et je vais juste rester sur mon exemple, la disponibilité est un point de différenciation. Si votre produit est connu et qu'il est disponible dans un endroit où votre concurrent n'est pas, vous avez 100% du marché. Aussi simple que cela. Donc, vous pouvez être plus cher, si vous voulez, ou être au juste prix dans un endroit où vous n'êtes pas en guerre de prix avec quelqu'un qui, lui, n'est pas disponible.
Alors, essayons d'illustrer. Pour le cube, qu'est-ce que ça pourrait être un endroit où les géants ne sont pas pour distribuer un cube 100% made in Togo, 100% avec des produits africains à Yité, à Javon?
Pour moi, c'est partout, jusqu'au plus petit village. Nous, on a fait une tournée jusqu'à la frontière de Burkina. Le cube, là, c'est comme la marque jaune et rouge. C'est partout. Dans les moindres villages, c'est distribué en moto, c'est distribué par les femmes sur leur tête.
Ouais. C'est partout. C'est comme les unités de téléphone, quoi, finalement, d'Internet. Non, mais c'est une vraie question, Didier, à côté.
Non, mais absolument. En fait, Gilles, peut-être l'expérience précédente que vous aviez eue dans les boissons gazeuses et les télécoms, où finalement, on voit que c'est
on
une
est
industrie...
On est sur du mass market, quoi.
Mais c'est ça, on voit que finalement, c'est une industrie où peu de petits players locaux survivent, en fait.
Alors, aujourd'hui, nous faisons l'accompagnement de petites et moyennes industries, ici, notamment en Côte d'Ivoire, où je suis donc installé actuellement. Et pour ne pas citer de marque, nous avons ce que nous appelons donc les bouillies. Les bouillies que l'on boit à la rupture du jeûne du ramadan.
D'accord.
Voilà, par exemple. Donc, ce sont des niches. Et il y a des producteurs internationaux qui n'ont pas encore trop regardé à ce type de produit. Eh bien, ce sont des produits où les internationaux sont uniquement aujourd'hui sur les grands marchés et nos clients rentrent dans les petits marchés et arrivent dans la toute petite distribution avec petite marge à trouver leur bonheur. Tout revient à donner de la valeur parce que le client, il achète la valeur, la convenience que vous lui donnez. Et c'est possible, je reviens donc encore à mon exemple de la distribution, ça peut aider. Il n'empêche que la saveur pour ce qui est agroalimentaire est une chose et que vous pouvez retrouver dans une industrie locale quelque chose qui nous rappelle vraiment le bon goût du village, le bon goût de maman, le bon goût que j'ai connu quand j'étais petit, et c'est quelque chose sur lequel on essaie de travailler.
À Yité, à Javon, est-ce que vous n'auriez pas envisagé de créer une deuxième ligne qui serait moins mask market pour justement pouvoir vous infiltrer avec un produit où vous seriez moins concurrencé, moins talonné par les géants, proposer un produit plus directement africain dans des endroits où les géants ne sont pas présents?
Non, sincèrement, c'est pas du tout ma stratégie.
D'accord, ok.
Et moi, j'aime le challenge, la concurrence. J'aime bien chatouiller les pieds des géants et j'espère avoir leur attention très bientôt pour qu'eux-mêmes puissent proposer un produit beaucoup plus sain pour nos populations.
Ouais. Alors, je sais que vous avez commencé à fabriquer dans la maison de votre grand-mère. Aujourd'hui, vous avez une unité de transformation à Lomé. Vous recherchez des fonds pour financer une nouvelle usine. Le mode de fabrication industrielle a évidemment une incidence déterminante sur le prix, non ?
Tout à fait. C'est un incidence sur le prix et petit à petit, j'ai réussi à mécaniser ma chaîne de production et donc à diminuer mes coûts de production. Et très bientôt, cette année... je serai en équilibre budgétaire.
Ouais. Mm-hmm. C'est ce qu'on vous souhaite, en tout cas. Bravo à vous.
Il y a quelque chose que j'aurais aimé dire,
qui
marche très très bien. Je ne sais pas si notre frère Anité a Javon encore en ligne.
Oui, je suis là.
C'est la politique de packaging. Lorsque votre concurrent vend à un certain, donc à un certain prix, l'idée de vendre à un packaging plus petit, une plus petite size, vous permet l'entrée au marché à moindre coût et donne l'impression à un consommateur que vous êtes moins cher. Mmh. Bon, mais comme on parlait beaucoup de cubes,
parce qu'en plus
je
en
pense
Afrique,
pas qu'on puisse faire plus petit que cube. voilà. C'est pour ça que je me suis retenu à Yité. Mais c'est une bonne stratégie.
En Afrique, on n'est pas obligé d'afficher le prix au kilo. Hein. Donc pour la ménagère, c'est compliqué de comparer s'il n'y a pas tout à fait le même prix.
Je crois que la ménagère compte mettre le cube dans sa sauce et voici si ça sale autant que l'autre.
C'est ça aussi.
À Yité, à Javon.
En tout cas, merci beaucoup. Mais oui, mais c'est bien. Et puis, je suis content d'avoir rencontré Aïté à Javon, dont j'ai entendu parler. En beaucoup de bien sûr.
Merci beaucoup à vous, en tout cas. C'est passé trop vite, c'était passionnant.
7 milliards de voisins et la planète se barre.
Didier Akwété. On arrive bientôt au terme de cette discussion vraiment intéressante, parce que vraiment illustrée en plus, hein, avec un cas concret. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire qu'on doit retenir par rapport à ce que nous a dit Gilles Attailly, à ce que nous a raconté Aïté à Javon, sur le prix finalement? Un prix, c'est quoi pour tous ceux qui nous écoutent et qui se lancent dans les PME?
Alors, un prix, c'est beaucoup de choses. Et comme Gilles l'a rappelé justement, si vous avez un prix mais vous n'avez pas de stratégie de distribution de présence, votre prix n'a pas de sens. Donc le prix est une composante en réalité de votre stratégie marketing globale. Et c'est peut-être ce que le consommateur aussi est prêt à payer par rapport à ce que vous lui promettez et le besoin qu'il a de ce produit. Donc qu'est-ce qu'il est prêt à accepter, le consommateur, quand vous fixez un prix ? Mais une fois qu'on a dit cela, le prix répond aussi à une logique. On peut citer trois logiques. Il y a une logique de marché, c'est-à-dire quel est le prix auquel le consommateur est prêt à acheter un produit. Et donc, toute votre stratégie commerciale et vos volumes vont être basés sur cet élément. Ensuite, mon coût de revient. Il faut quand même que je gagne de l'argent quand je vends un produit. Donc le prix est une composante essentielle de votre survie, et donc votre rentabilité est extrêmement liée au prix que vous définissez. Et ensuite, le positionnement. C'est-à-dire quel positionnement vous choisissez quand vous fixez un prix. Est-ce que vous voulez dire « je suis un produit pour tout le monde, donc tout le monde peut l'acheter » Est-ce que je suis un produit pour une clientèle peut-être très segmenté, peut-être élitiste, etc. Donc le prix aussi, c'est une question de positionnement de votre produit. Et on le voit, bon, bah, pour les produits de luxe, etc. Donc il y a une dimension aussi psychologique qui est liée à un prix. Alors, une fois qu'on a dit ça, les entrepreneurs ont plusieurs possibilités. Il y a une panoplie de prix qu'on peut déterminer une fois qu'on sait qu'on peut gagner de l'argent, qu'il y a un positionnement auquel il répond et que ça répond aussi à ce que le marché attend. Il y a ce qu'on appelle le prix du marché, effectivement. C'est le prix qui est pratiqué, comme ce que fait AIT. C'est le prix qui est pratiqué et ce que les consommateurs s'attendent à avoir compris pour mon produit. Ensuite, le prix de pénétration, c'est-à-dire, vu que mon produit est nouveau et qu'il y a beaucoup de challengers, quel prix je peux faire pour que mon produit pénètre rapidement le marché, pour que les gens l'achètent? Donc peut-être je vais faire un prix un peu plus bas que les autres pour que le consommateur, je vais essayer le produit et peut-être l'adopter. On peut aussi parler d'un prix d'appel et vous poser la question tout à l'heure. Est-ce que vous avez d'autres produits prévus dans votre gamme pour que le consommateur, quand il vient par rapport au produit d'appel sur tel produit, vous puissiez lui vendre d'autres produits de votre gamme? Bon, c'est ce qu'on appelle le prix d'appel. Il y a ce qu'on appelle le prix magique. Bon, on le trouve souvent et c'est vraiment psychologique. C'est un prix qui stimule la pensée. En fait, c'est généralement les prix qui se terminent par 9, 10,99 ou 9,99. Donc, c'est un prix magique et psychologiquement, ça fonctionne. On a l'impression de le payer moins que 10 francs ou moins que 100 francs, alors qu'en fait, c'est 100 francs ou c'est 10 francs, quoi. Et puis, il y a aussi parfois ce qu'on appelle le prix de référence, c'est-à-dire c'est le prix utilisé par le consommateur pour évaluer un produit en comparaison à d'autres produits sur le marché. Donc, tous ces éléments, il y en a d'autres, mais ce sont des éléments qu'il faut intégrer quand on élabore une stratégie marketing et quand on prépare un projet. Et il n'y a pas le juste prix, il y a le prix auquel on pense que le consommateur peut payer le produit par rapport à la qualité du produit, au positionnement du produit et l'endroit où le produit se trouve.
Prix du marché, prix de pénétration, prix d'appel, prix magique. Il faut absolument passer du temps quand on est patron, quand on se lance sur un marché, dans la création de produits, pour déterminer le juste prix. Didier Akwété, cette fiche pratique sur le prix, c'est qu'un début, évidemment, vous tous qui nous écoutez, vous faites ensuite d'autres recherches sur Internet, mais cette chronique est à réécouter sur les prix. Vous pouvez télécharger le podcast Entreprendre en Afrique, les conseils de Didier Akwété. Il me reste à remercier nos amis Aïté à Javon pour AfriCube, Gilles Attailly, vous êtes le fondateur de GA Africa Consulting, vous étiez en direct d'Abidjan. Merci à tous les deux d'avoir participé à la discussion. Et cette émission était préparée par Delphine de Dianous, Juliette Brault, réalisée par Romain Dubrac. Merci à vous, Didier Akwété.
Merci, Emmanuel Bastide.
Vous revenez le mois prochain.
Évidemment.
On compte sur vous. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera du seul vêtement universel aujourd'hui. C'est quoi, Didier ?
C'est le masque.
Mais non, c'est le jean. Le jean, porté par tout le monde, dans le monde entier, résistant, simple, en même temps capable de se réinventer tout le temps. Il est aussi très polluant à produire. Bref, il y a tellement à dire sur le jean. Et c'est vous qu'on attend, les voisins, les voisines. Vous et votre jean, comment vous l'aimez? Comment vous le portez? On veut tout savoir sur votre seconde peau. Vous nous appellerez, hein, Didier?
Évidemment.
En jean, cette fois-ci, pas en costume, cravate. Appelez-nous dès maintenant au 33 7 64 45 51 41. Allez, on se quitte avec Bande Gamboa, qui honore les trésors méconnus du Cap Vert et de la Guinée-Bissau.
Nem se fugo que tenho no arroz cozido. Nem se fugo que tenho no arroz cozido. E cada arroz songa no som possível. E cada arroz songa no som possível. A nós gêmea tu mamá songa no som possível. A nós gêmea tu mamá songa no som possível. Uma pele de silão, assim que não afirma, assim que não afirma, babi assim que luta. Uma pele de silão, assim que não afirma, assim que não afirma, babi assim que luta.
Chez 7 milliards de voisins, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur les plateformes de téléchargement et nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Le compte, c'est 7 milliards RFI. Dans quelques instants, le journal. À demain, les voisins.
7 milliards de voisins, c'est fini.
Tout à l'heure sur RFI.